VOA Afrique, les infos à Washington.
Raissa Girondin avec vous pour votre bulletin d'information. En Mauritanie, le président Mohamed Ould Abdelaziz ne briguera pas un troisième mandat. C'est sa promesse faite hier soir sur les antennes de la télévision nationale. Après les élections locales, régionales et législatives, largement remportées par son parti, l'Union pour la République, il n'entend pas modifier la constitution pour un troisième mandat, mais n'acceptera pas de laisser le champ libre à ceux qui ont détruit et pillé ses ressources. Fin de citation. En Guinée-Bissau, le recensement électoral pour les scrutins législatifs le 18 novembre et présidentiel en 2019 a finalement commencé hier après un retard de presque un mois. Précision d'Irénée Amanongbo.
Le président bissau-guinéen a été le premier à s'inscrire en présence du corps diplomatique et du représentant de la CEDEAO Blaise Diplo. Nous nous sommes engagés à organiser les législatives le 18 novembre. Cela reste valable malgré le retard dans le démarrage du recensement, a rassuré José Mario Vaz brandissant sa nouvelle carte. Il a par ailleurs lancé un appel à tous ses compatriotes afin qu'ils retirent leur carte d'électeur. Son premier ministre Aristide Gomez a pour sa part déclaré qu'il s'agit d'une phase très importante pour la réalisation des élections législatives du 18 novembre. « Ma mission n'est pas totalement accomplie », renchérit-il, indiquant qu'il reste encore du travail à faire. Selon le ministère de l'administration territoriale, le recensement vise à inscrire près d'un million d'électeurs. Ce recensement, qui devait débuter le 23 août et durer un mois, a été reporté en raison du retard dans l'acheminement du matériel électronique en provenance du Nigeria, qui n'est arrivé que ces derniers jours.
Et Mohamed Touré, le fils du premier président de la Guinée, son épouse Denise Cross-Touré, risque jusqu'à 30 ans de prison aux États-Unis s'ils sont reconnus coupables d'avoir réduit pendant 16 ans une jeune femme en esclavage au Texas. Le couple a été inculpé de 5 chefs d'accusation, notamment pour travaux forcés et hébergement illégal d'étrangers pour des gains financiers. Des accusations rejetées par l'avocat du couple, Scott Palmer, qui a qualifié de faibles les preuves du gouvernement. Au Libéria, le gouvernement a annoncé l'ouverture d'une enquête après l'entrée de près de 100 millions de dollars américains. Le point avec Joël Zima, une consoeur de notre station partenaire Top Congo FM qui séjourne à Washington.
15 personnes sont interdites de quitter le territoire pour aider dans l'enquête sur l'entrée de billets d'une valeur de 97 millions de dollars américains entre novembre 2017 et août 2018. Parmi les personnes concernées, le ministère de l'Information a cité Milton Weeks, gouverneur de la Banque centrale sous Ellen Johnson Sirleaf. Charles Sirleaf, fils de Madame Sirleaf, qui travaillait dans cette institution depuis les années 2000, et l'homme d'affaires libanais George Abijaoudi, proche de l'ex-présidente. De son côté, le ministère de la Justice a indiqué que le Libéria avait sollicité dans l'enquête l'aide du Trésor américain, du FBI et du Fonds monétaire international. Le but de cette enquête est de montrer exactement la provenance des billets imprimés et amenés dans le pays de 2016 à 2018. Le Libéria, petit pays pauvre d'Afrique de l'Ouest, est confronté depuis un an à la dépréciation de la monnaie locale qui rend les marchandises importées inaccessibles pour la majeure partie de la population.
Et en Tanzanie, plus de 100 personnes ont péri dans le naufrage jeudi d'un ferry dans le sud du lac Victoria. Un bilan qui s'est alourdi avec la reprise du travail des équipes de secours dont les recherches avaient été interrompues la nuit. Des témoins ont rapporté à la télévision publique qu'environ 200 passagers se trouvaient à bord du ferry d'une capacité de 100 personnes. Le gouverneur de la région de Mwanza, John Mongela, a indiqué ne pas être en mesure de confirmer ce nombre. Le ferry Nyerere s'est retourné jeudi à quelques dizaines de mètres seulement du débarcadère de sa destination finale, l'île d'Oukara, dans le sud du plus grand lac d'Afrique. Au Ghana, au moins 34 personnes sont mortes dans le nord du pays dans des inondations provoquées par de fortes pluies et des débordements d'un barrage au Burkina Faso voisin, selon le chef adjoint de l'Organisation nationale de gestion des catastrophes du Ghana. Deux personnes ont été également portées disparues et plus de 52 000 personnes ont été touchées. Le barrage de Bagré, un des plus importants du Burkina, est situé à 30 km de la frontière du Ghana. Ces vannes sont ouvertes lors de la saison des pluies, mais les volumes d'eau excédentaires inondent régulièrement les zones situées le long des cours d'eau. Au Mozambique, 12 habitants d'un village de l'extrême nord du pays ont été tués, 14 sérieusement blessés lors d'une nouvelle attaque attribuée à un groupe islamiste. De nombreuses maisons ont également été incendiées. 500 000 d'électeurs du petit royaume africain d'Iswatini, une des dernières monarchies absolues de la planète, ont commencé à élire leurs députés. Un scrutin qualifié de farce par l'opposition en l'absence de partis politiques. En effet, les candidats aux 59 postes soumis au vote se présentent à titre personnel et non sous l'étiquette d'un parti. Les formations politiques ne sont toujours pas autorisées à participer aux élections. Et l'Algérie a retiré tous ses policiers habituellement en faction devant les enceintes diplomatiques françaises du pays. Cette action s'est faite en réponse de la suppression des policiers français postés devant la résidence de l'ambassadeur d'Algérie à Paris. Alger et Paris n'ont fait aucun commentaire pour le moment.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Et l'actualité dans le reste du monde, aux États-Unis, à New York, 3 enfants et 2 adultes ont été victimes de coups de couteau ce matin dans un centre de soins. La personne mise en cause dans l'agression est une femme travaillant dans le centre. Elle a été retrouvée avec des blessures qu'elle s'est infligée elle-même au poignet et a été arrêtée. Les 2 adultes sont un employé du centre et le père de l'un des enfants. États-Unis toujours, la femme qui accuse d'agression sexuelle le choix du président Donald Trump à la Cour suprême a jusqu'à 10 heures pour répondre à l'invitation du Sénat. Christine Baslay Ford exige des garanties avant de venir à Washington la semaine prochaine. Le point avec Abdourahman Dia.
Selon l'avocate de Madame Ford, l'accusatrice de Brett Kavanaugh est finalement d'accord pour venir témoigner devant la commission judiciaire du Sénat si les termes qui lui sont proposés sont justes et sa sécurité assurée. Mais elle a toutefois indiqué dans un email envoyé au sénateur que Christine Ford ne serait pas en mesure de se présenter à Washington lundi, comme l'exigent les républicains. Christine Blasey Ford dit avoir reçu des menaces de mort. Cette universitaire de 51 ans affirme avoir été agressée sexuellement par Kavanaugh lorsqu'elle était au lycée. Elle avait demandé une enquête de la police fédérale avant d'être auditionnée par le Sénat. De son côté, le président américain Donald Trump a appelé la femme à témoigner rapidement, accusant ses adversaires démocrates d'obstruction. Le locataire de la Maison-Blanche estime que des investigations du FBI ne sont pas nécessaires.
Et Michael Cohen, l'ancien avocat et très proche collaborateur du président Trump, a été interrogé à plusieurs reprises par l'équipe du procureur spécial Robert Mueller, chargé de l'enquête sur l'ingérence russe dans la présidentielle de 2016. C'est ce qu'a indiqué son avocat, qui a plaidé coupable de fraude fiscale et bancaire au mois d'août. Cohen avait acheté le silence de 2 femmes, dont l'actrice porno Stormy Daniels, peu avant la présidentielle de 2016, à la demande du candidat Trump, avait-il dit. Le président américain l'a traité de menteur. La Russie et la Turquie se sont mis d'accord sur les frontières de la zone démilitarisée que leurs présidents veulent mettre en place à Idlib pour éviter un assaut sur le dernier bastion rebelle de Syrie. C'est ce qu'a annoncé le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, réuni à Sotchi. Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan ont surmonté leur division et annoncé la création d'ici au 15 octobre d'une telle zone sous contrôle russo-turc. Elle doit servir de zone tampon entre les territoires insurgés d'Idlib et les zones tenues par le régime tout autour. Toutes les armes lourdes et les djihadistes doivent sortir de la zone. La Chine a fait part de sa grande indignation après les sanctions prises à son encontre par les États-Unis pour les achats d'armement passés par Beijing à la Russie. Washington a annoncé jeudi soir avoir sanctionné pour la première fois une entité étrangère pour avoir acheté des armes russes, à savoir une unité de l'armée chinoise qui a acquis des avions de chasse et des missiles sol-air. Ce geste des États-Unis viole gravement les principes fondamentaux des relations internationales. Nous appelons fermement les États-Unis à rectifier immédiatement cette faute. Autrement, ils devront en payer les conséquences, a averti le porte-parole de la diplomatie chinoise. Et l'OMC va se prononcer sur une demande de la Chine qui veut imposer aux États-Unis des sanctions de plus de 7 milliards de dollars par an. La décision a été prise vendredi lors d'une réunion spéciale de l'ORD, l'organe de règlement des différends de l'Organisation mondiale du commerce, durant laquelle la Chine a officiellement demandé de pouvoir imposer ces sanctions. Le litige remonte à décembre 2013. Et le pape chilien accepte la démission de 2 autres évêques chiliens, le pape François, pardon. Les 2 démissionnaires sont Carlos Eduardo Peligre Barrera et Christian Enrique Contras Malino du diocèse de Sainte-Philippe, selon un communiqué du Saint-Siège.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.